Dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Il y a l'économie, il y a les rapports de concurrence et il y a la géographie. Quand on regarde les cartes après le référendum britannique, ce qui frappe au premier abord, c'est d'abord la division du pays. Les commentateurs ne s'y sont pas trompés depuis vendredi, qui analysent les résultats en termes de fractures multiples, fractures générationnelles, géographiques, sociales, économiques. Comme l'histoire, vous le savez, ne va pas sans la géographie, en tout cas c'est ce qu'on apprend à l'école et qu'on est dans un moment historique, on a voulu demander à des géographes leur interprétation des résultats. Que nous disent-ils de la situation du Royaume-Uni? Est-ce que le Royaume-Uni est un cas à part ou est-ce que ses oppositions, ville-campagne, jeunes-vieux, élite-peuple, se manifestent aussi dans le reste de l'Europe? Peut-on dès lors parler de l'Union européenne comme d'une désunion territoriale? Deux géographes sont avec nous. Michel Fouché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur, essayiste, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales de la Fondation des Maisons, de la Maison des Sciences de l'Homme. Votre dernier ouvrage vient de paraître aux éditions du CNRS. Il s'intitule Le retour des frontières. Peut-être qu'on y viendra en cette fin d'émission. Et le deuxième géographe qui est avec nous, c'est Michel Lussault.
Bonjour. Bonjour.
Professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon. Alors, quelle analyse géographique faites-vous des résultats du référendum? Michel Fouché.
Les chercheurs britanniques sont extrêmement compétents dans ce domaine. Il y a des clivages explicables par des corrélations dans l'ordre, mais vous les avez cités. Le premier sur cette question-là, l'appartenance à l'Union européenne, c'est le diplôme. C'est tout à fait clair. Diplôme et aussi la profession, c'est-à-dire des professions qui supposent d'avoir des diplômes. C'est beaucoup plus important que ce qui suit. La détention ou non d'un passeport, ça a été mis en évidence de manière extrêmement claire. Les revenus, mais les revenus sont d'une certaine façon la conséquence dans un monde de compétition dont vous avez parlé à l'instant, et l'âge. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, en plus, c'est évidemment la dimension, disons, régionale. L'Écosse, c'est tout à fait clair, 32 conseils sur 32 ont donné la majorité aux Remain, statu quo. En Irlande du Nord, contrairement à ce qu'on dit, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a 8 circonscriptions qui ont voté pour le Remain, et qui sont, j'ai vérifié ce matin en détail, les circonscriptions catholiques, et les circonscriptions à majorité protestante ont voté comme le reste du Royaume-Uni. Donc là, il y a quelque chose d'assez important. Alors après, ça donne une carte. On peut tout faire à la radio, sauf montrer une carte, mais la carte est là.
Non, mais on peut la décrire. Vous ne parlez pas de Londres et de la ville, des villes et des campagnes.
Elle est tout à fait claire. Alors, à Londres, en effet, en gros, il y a 33 boroughs, 33 districts, 28 ont voté également pour le Remain. Alors, les clivages ensuite qui concerne l'Angleterre elle-même, il y a des choses extrêmement intéressantes. L'âge, les nostalgiques de l'Empire britannique, c'est-à-dire ceux qui ont un sentiment d'appartenance, d'être anglais. Ça a été Englishness, ça a été tout à fait mis en valeur. Donc des gens plus âgés, des gens qui vivent à la campagne, qui ont pris leur retraite, qui vivent tranquillement dans leur cottage. Et comme le montrait un dessin humoristique du New York Times la semaine dernière, un couple discute à côté de son cottage en pierre, en granit, avec un petit drapeau britannique. L'homme demande est-ce qu'on va quitter? Et la dame, la mamie répond: ah bon, parce qu'on est entré? Donc il y a l'élément d'information. Et beaucoup plus intéressant encore, je dirais, les régions, en fait c'est l'Angleterre verte, l'Angleterre noire des géographes, les régions les plus aidées par l'Union européenne ont voté contre, parce que c'est les régions en désindustrialisation ou réindustrialisation, et les régions qui font le plus de business avec le reste de l'Union, c'est-à-dire le Yorkshire et le Lancashire. Et là il y a un déficit, non pas démocratique, mais il y a un déficit de communication sur ce que c'est que les politiques structurelles.
Michel Husseau, je ne vais pas vous faire répéter parce que ça c'est l'observation des faits, donc je suppose que vous avez eu les mêmes cartes sous les yeux et que vous pourriez les analyser de la même façon. En revanche, une fois passée l'observation des faits, il y a l'interprétation. Est-ce qu'on pourrait dire, et quel est votre sentiment, est-ce que pour vous c'est la revanche des périphéries sur les centres, des campagnes sur les villes? Est-ce que, autrement dit, vous avez l'impression qu'on a assisté à une sanction contre la mondialisation ou à une affirmation identitaire, puisqu'on a aussi beaucoup parlé du rejet de l'immigration. Mondialisation, donc l'analyse, disons l'explication socio-économique, ou la xénophobie et l'analyse plus identitaro-politique?
Je vais essayer de répondre à cette question difficile, mais par un détour et peut-être une montée en généralité. Je crois qu'on peut aussi, en observant ces cartes, qui, si on les observe à l'échelle des boroughs, montrent une différenciation, mais si on va à une échelle infra-borough, on verra aussi apparaître d'autres différenciations. Et plus on se rapproche du local, plus on verra de nouvelles différenciations apparaître. Pourquoi ? Parce que la mondialisation est un processus qui produit de la différenciation à toutes les échelles. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ça, c'est ce que les géographes peuvent peut-être apporter à la compréhension du contemporain.
C'est quoi les échelles en fait dont vous parlez ?
Eh bien, toutes les échelles, presque de l'individu au monde, on voit un globe terrestre qui se différencie de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas pressenti l'importance.
On avait même dit l'inverse.
On avait même dit l'inverse. On a même eu des livres qui nous ont expliqué, Thomas Friedman, The World is Flat, le monde est plat, le monde est lisse, le monde est de plus en plus uniforme. Non, le monde est à la fois standardisé et de plus en plus différencié. Et je rajoute une chose, c'est que les vecteurs de cette différenciation deviennent de plus en plus nombreux. La race, l'activité, le groupe social, l'âge, Michel Chouchet vient de le dire, le niveau de diplôme, l'orientation sexuelle, la culture au sens anthropologique, le régime alimentaire, que sais-je. C'est-à-dire, on a un processus qui fait que de plus en plus d'individus dans des sociétés qui sont en plus très individualistes, où les individus veulent être des acteurs pouvant faire des choix. De plus en plus d'individus trouvent des vecteurs pour se différencier des autres. Et nous avons aujourd'hui une sorte de territorialisation de cette variété de possibles qui est tout à fait intense et qui, et là aussi Michel Fouché l'a signalé, qui peut même être pensée, si l'on est un peu pessimiste, et c'est une manière de répondre à votre question, qu'il y a une sorte de territorialisation des rivalités. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette différenciation des sociétés et des espaces tourne très souvent, en contexte de mondialisation, dans une territorialisation des rivalités. Ce qui vient d'être dit sur la Grande-Bretagne, les uns contre les autres, les uns par rapport aux autres. Et cette territorialisation des rivalités, elle nous pose des vraies questions politiques. Alors, elle n'est pas générale. On peut aussi avoir une territorialisation des coopérations, une territorialisation des interactions, mais on est forcé de constater que lorsqu'on observe les territoires européens dans leur ensemble, et ça serait vrai d'ailleurs de tous les territoires mondiaux, très souvent, on tombe devant ces situations où un certain nombre de groupes sociaux et d'individus réclament une spécificité, l'inscrivent dans un territoire, une territorialité, et à partir de cela, construisent leur rivalité, leur revendication par rapport aux d'autres groupes, à partir de cette plateforme que constitue leur territoire. Et ça, c'est un défi politique majeur pour nos sociétés.
Michel Fouché.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Imaginons un scénario en France, on aurait les mêmes types de clivages selon les mêmes critères, à une différence près, l'âge. Parce que les anciens, au Royaume-Uni, on a la nostalgie de l'Empire, ils ont gagné la guerre. Ils n'ont pas besoin de l'Union européenne pour leur rédemption. Alors que les anciens en France ont la mémoire, ils ont encore le récit, y compris des générations précédentes. Ça, c'est la grande différence.
Et pourquoi les jeunes changent alors? Pourquoi c'est
pour le reste, parce que les jeunes britanniques ils votent peu, mais ils sont beaucoup plus ouverts. Alors qu'en France, c'est plus compliqué. Notamment les apprentis aujourd'hui se sentent un peu désespérés et sont tentés par le Front National. Mais les clivages existent et il faut poursuivre ces analyses. Le défi politique. Alors là, je commence à être un peu critique de l'argumentaire permanent. le peuple contre les élites. Dans cette élection britannique, ce qui est frappant, c'est un référendum consultatif. C'est pas une élection présidentielle. C'est pas celui qui a le plus de voix qui gagne. 17 400 000 d'un côté, plus de 16 millions de l'autre. Donc, le vote de ceux qui veulent partir est valable, mais ceux qui veulent rester aussi. Et tout le défi aujourd'hui de la classe politique, un peu arrogante, hein, de nos amis britanniques, ça va être de réconcilier. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de Brexit. Il y aura une négociation, comme nos amis britanniques savent le faire avec une capacité diplomatique tout à fait extraordinaire, et ils sont déjà en train de commencer. Ils vont faire porter leurs revendications par leurs alliés d'Europe du Nord-Ouest, d'Europe centrale et des pays baltes, et on va se retrouver, pour une fois de plus, avec un statut spécial, accès au marché unique, tous les avantages sont les inconvénients.
Pas très bon pour l'Europe, tout
ça. Tous les avantages sont les inconvénients, mais on va les garder parce qu'on a besoin d'eux. Donc, mais la première dimension, si vous voulez, c'est que, et Johnson, ce cynique, le dit dans son article du Daily Telegraph d'hier, hein, il y a eu 17 millions, il y a eu 16 millions, je vais m'adresser aux deux. Alors, pour les uns, le frein migratoire, il faudra négocier ça avec les Polonais. Pour les autres, rien ne change, on reste une puissance européenne. C'est très cynique, mais ça correspond à la réalité.
Et les Européens ne peuvent rien faire.
Donc je pense qu'il n'y aura pas de Brexit. Ben, ce qu'il faut, c'est négocier le prix de ce maintien du Royaume-Uni. Et la reine, en fin de règne, ne peut pas accepter. La reine ne peut pas accepter le démontage de son royaume. Et d'ailleurs, elle passe du temps à Balmoral en Écosse et elle le dit.
France Culture, la Grande Table, Caroline Brouet.
Est-ce que l'Union européenne est en train de se désunir? Nous en parlons à partir des territoires ou du territoire, en compagnie de deux géographes, Michel Fouché et Michel Lussault. J'aimerais, moi, qu'on quitte le territoire britannique pour aller justement vers le territoire européen, Michel Lussault. À l'instant, Michel Fouché disait que si on avait le même type de questions en France, on aurait les mêmes clivages à ceci près que les jeunes ne voteraient pas forcément, les jeunes français ne voteraient pas forcément comme les jeunes britanniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Est-ce que ces fractures identifiées au Royaume-Uni se retrouvent en France, voire un peu partout en Europe?
Il y a incontestablement des points communs, y compris des points communs de choses qui sont profondément fausses. Je partage l'idée qu'il faudrait en sortir avec ce dualisme du peuple et des élites, parce que je crois en fait que c'est une sorte de mythologie politique qu'on est en train d'accepter, qui sert à une série de démagogues, mais qui en réalité ne résiste pas aux analyses. En fait, les clivages et les tensions se déploient selon un spectre beaucoup plus large que ça, et enfin, beaucoup plus
quand
subtil
quand
que ça.
Quand vous parlez des clivages pour la Grande-Bretagne, bon, on a les diplômes, la profession, le passeport, le revenu. Donc
il y a 16 millions de personnes qui font partie des élites, bravo. C'est là qu'il faut vivre.
Il y a des critères sociologiques, mais c'est dans des critères sociologiques qui sont à manier avec précaution, parce qu'une bonne partie de ceux qui pensent parler au nom du peuple sont en fait des membres des élites les plus dénoncés par ailleurs, et une bonne partie de ceux qu'on estime être membres du peuple ont des comportements électoraux qui ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient être. Je pense qu'il y a plutôt dans notre société, comme j'ai voulu le dire, presque un droit universel de qui que ce soit d'instruire un contentieux contre qui que ce soit. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, c'est plutôt ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la montée en tension de l'instruction permanente, de la dénonciation d'un ennemi, d'un adversaire, de quelqu'un contre lequel il faut s'affirmer. Et c'est vrai à toutes les échelles et pour tout type de phénomène. Vos journaux sont remplis de ces situations où on voit une conflictualité se créer qui finalement déjoue aussi assez souvent les pronostics. Ça peut aller de Notre-Dame-des-Landes, dont nous avons vu la manière dont c'est tranché sans lettre, jusqu'au Brexit, en passant par des questions plus politiques, sociales, des questions scolaires, j'en sais quelque chose. Il y a donc cette situation-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de ce moment-là, on peut, en géographe, penser que les sociétés contemporaines sont très marquées par cette différenciation qui va jusqu'à la fragmentation, à toutes les échelles, et que cette fragmentation, et là Michel Fouché pourra abonder, redonne de l'importance aux frontières. Redonne de l'importance aux frontières si on accepte, là peut-être ne sera-t-il pas d'accord, d'avoir une conception non strictement géopolitique de la frontière entre États, c'est-à-dire donne une importance fondamentale aux limites, aux limitations, aux seuils, aux passages. Et bien parce que ces groupes qui réclament quelque chose, qui désignent un adversaire, vont se territorialiser et donc se constituer leur territoire.
Vous parlez des frontières, des petites frontières.
Des petites frontières, y compris parfois les frontières qui exaltent le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire les frontières intra-urbaines. Et notre grand souci aujourd'hui, c'est de savoir si nous pouvons prendre ces frontières comme des seuils, comme des portes, comme des points de passage, comme des interfaces, des vecteurs de l'échange, parce que la frontière, Michel Agier par exemple l'a bien montré, c'est aussi un lieu où il y a d'abord de l'échange, où il y a une intensité particulière de ces échanges, ou est-ce qu'on va construire ces frontières comme quelque chose qui délimite une forteresse? On parle de la forteresse européenne, Antoine Mercier, vous avez, je crois, employé ce mot tout à l'heure, mais on pourrait aussi revenir sur cette expression qui avait été utilisée par certains chercheurs travaillant sur le pavillonnaire, sur l'espace pavillonnaire, sur les quartiers pavillonnaires, et qui parlait de citadelle domestique. Chaque individu se conçoit lui-même, peut-être à son propre échelle, comme une forteresse, sa famille incluse dans la citadelle domestique, son quartier, la citadelle qu'il faut défendre contre ceux qui voudraient venir l'envahir, d'où les gated communities, les quartiers fermés, sa ville opposée à la campagne, sa campagne opposée à la ville.
Comment on peut imaginer que ce soit une bonne solution, ça?
Eh bien, ça n'est justement pas
la bonne
solution.
Ah bon, parce que vous parliez des frontières, peut-être qu'elles
peuvent être poreuses. Non, ce qu'il faut justement imaginer, c'est réinventer collectivement un sens des frontières qui font de ces frontières des lieux de passage et d'échange et pas des lieux d'opposition et de fermeture. Et il me semble que c'est un problème politique majeur que nous avons aujourd'hui à l'Europe, en Europe à toutes les échelles, parce que ça a évidemment aussi un écho dans la réflexion des chancelleries sur que doit-on faire de l'Europe. Et la communauté européenne elle-même, à mon sens, se condamnerait si elle avait une réponse exclusivement en termes de fermeture à un défi qui n'est absolument pas de cet ordre-là.
Michel Fouché.
Oui, je suis d'accord sur le fait que tous ces constats appellent des réponses politiques. Alors, Marcel Gauchet explique très bien le passage de la citoyenneté à l'individu. L'individu tout puissant. Le meilleur exemple de ça, c'est le selfie. C'est une invention absolument diabolique. En termes politiques, ça interpelle le jeu démocratique. Est-ce que... C'est pour ça qu'il y a une erreur d'interprétation sur ce référendum consultatif. Est-ce que la démocratie, ça se limite à des élections avec le vainqueur et celui qui a le même nombre que l'autre, plus
un. C'est comme ça que ça marche quand même.
Oui, ben, peut-être qu'il faut évoluer. Il faut évoluer. D'abord avoir des majorités qualifiées sur des sujets vraiment existentiels.
On aurait dû mettre la barre à 70%.
Ben, bien entendu, on le fait dans l'Union européenne, sur des sujets moins cruciaux, ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Soit l'unanimité, c'est pas le cas, soit une majorité qualifiée, avec un taux de participation significatif.
Et pourquoi pas dans l'autre sens, à ce
moment-là ? D'une façon générale, la démocratie, je cite Yankelevitch, ça n'est pas le consensus. C'est pas non plus le dissensus permanent comme en France. C'est l'art de trouver un compromis civilisé, dit-il, entre des intérêts divergents. C'est la conciliation. Et c'est ça ce qu'il faut essayer de mettre en place, parce que je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic de Michel Lussault. On assiste à une espèce de retour du territoire qui n'est pas forcément bon signe. C'est bon signe par rapport à l'hégémonie de l'économique, mais ça n'est pas bon signe parce que ça interpelle les responsables politiques à toutes les échelles. Il y a un référendum entre Notre-Dame-des-Landes, il y a des gens qui disent, mais de toute façon, on n'en tiendra pas compte. Donc il faut trouver des formes nouvelles de conciliation, de même que les autorités britanniques qui vont sortir des prochaines élections devront trouver une conciliation entre 17 millions et 16 millions. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on ne sait pas faire, en tout cas dans notre pays.
Michel Husseau.
Oui, je vais aller dans le sens de ce que Michel Fouché vient de dire. Les individus se réapproprient leurs espaces de vie, leurs territoires, leurs lieux. Voilà, j'ai souvent rappelé ça, y compris à ce micro, la semaine dernière, lorsque nous parlions du livre de Patrick Le Gallès. Le côté positif, c'est que cela montre un processus justement de réappropriation par les individus de leurs conditions de vie. Et ça, c'est toujours très bien, parce que ça veut dire qu'un certain nombre d'individus se redonnent les moyens d'avoir des prises sur leur existence d'individus et sur l'existence de la collectivité. Et qu'une partie du fonctionnement de la mondialisation tend plutôt à essayer d'assurer la déprise, c'est-à-dire nous devons être des consommateurs, et bien chaque fois que nous redevenons des sujets politiques et que nous le faisons par exemple à partir de cette réappropriation, c'est très bien.
Enfin, on abandonne la citoyenneté par ailleurs, ce qui est quand même qui était quand même la prise essentielle.
Antoine Mercier, vous faites bien de le faire remarquer. En tout cas, sinon on l'abandonne, le point positif, c'est qu'on pose la question de la citoyenneté d'une autre façon, possiblement, parce que je pense qu'un des enjeux des crises que nous vivons, c'est aussi peut-être de redéfinir les conditions même de l'exercice de la citoyenneté et peut-être d'arrêter de confondre dans certains types d'États la citoyenneté avec exclusivement la citoyenneté d'État dans le cadre du système démocratique représentationnel classique. Le côté négatif, pour aller très vite, le côté obscur de la force de cette réappropriation, c'est que le lieu, le territoire, c'est aussi possiblement l'espace de la reclusion. C'est aussi l'espace de l'exit, comme on le disait l'autre jour avec Patrick Le Gallès, l'espace du repli de la vie sociale, l'espace du refus de la coexistence avec les autres. On le voit dans beaucoup de pays. On le voit aux États-Unis, bien sûr, mais on le voit aujourd'hui en Europe, et y compris en France, avec des communautés fermées, entourées de grilles, où on a des populations entières qui décident de se mettre à distance. Hein. Et ce dialogue entre l'engagement dans le monde, à partir de mon territoire, et la distanciation, à partir de la volonté de me reclure, cette tension-là, elle est tout à fait fondamentale à observer en tant que géographe, et politiquement, elle est essentielle. Je pense qu'il n'y a pas, peut-être, de question plus importante que celle-ci pour l'avenir des sociétés européennes.
Ça fait beaucoup d'heureux, hein, repli, refus, rejet, retour, réappropriation. Michel Fouché, malgré tout, ce que vous dites, et manifestement vous êtes d'accord tous les deux sur ce retour du territoire, me pose question. Quand on entend retour du territoire, on suppose que le territoire avait plus ou moins disparu. Ça veut dire, si on reste à l'échelle européenne, qu'on avait réussi à créer un espace européen. J'ai envie de vous demander à tous les deux, ah bon, est-ce que cet espace européen a un jour réellement existé en dehors des papiers, en dehors des traités? Le problème que pose aujourd'hui, ou que met en lumière aussi le résultat du référendum, n'est-il pas celui-là?
Il y a une grande confusion sur le mot Europe. Ça a au moins 7 ou 8 sens différents. Il faudrait souvent être plus précis, mais apparemment on n'a jamais le temps de le faire. Je pense qu'on est paresseux, en fait. La question là, c'est l'Europe de l'Union. C'est-à-dire que c'est une association volontaire. Personne n'est obligé d'en faire partie. C'est ça le point de départ. Les Britanniques ont choisi en 72 de venir. Les Polonais en 2004, etc., etc. Et la liste est encore longue. Donc c'est quand même que ça représente quelque chose. Mais bien entendu, la stratégie de la construction européenne a été, je réponds que sur un point, est celle de l'extension permanente, le refus de penser des limites, parce que c'était un processus qui marchait très bien. Aujourd'hui, on se rend compte que il est temps de penser à cela. Parce que l'indistinction entre le dedans et le dehors, puisque le dehors proche était appelé à devenir le dedans, nous empêche tout simplement d'avoir une politique extérieure et de raisonner comme une puissance. Donc il y a un impensé géopolitique dans la construction européenne, dont le moteur a pendant longtemps été le fait d'exorciser le passé. On a construit la construction européenne, le récit de base, c'est plus jamais ça. C'est tout à fait valable dans le contexte de l'après-guerre, dans le contexte aussi de la guerre froide. Aujourd'hui, il y a en effet une difficulté à borner ce processus d'extension illimitée, qui est très déstabilisant, et qui va provoquer des réactions sur chez les fondateurs. Les 6 ministres des Affaires étrangères se réunissent entre eux à Berlin le samedi, et ceux qui n'étaient pas associés à la réunion, c'est-à-dire tous les autres, se plaignent. Donc, hier matin, Jean-Marc Ayrault et Steinmeier sont obligés, et ont été obligés d'aller passer pour Jean-Marc Ayrault une heure à Prague pour dire, oui, on a discuté entre nous, mais voilà ce qu'on a dit, et donc, il y avait les 4 centres européens là. Donc, on a besoin également à l'échelle européenne de borner un territoire une fois pour toutes. Je ne vois pas comment on peut se sentir membre d'une communauté politique si on ne connaît pas son territoire. Et la difficulté, c'est de se sentir à la fois appartenant à un lieu, membre d'une nation, d'une région et d'un ensemble plus vaste. Il y a une espèce de difficulté à accepter politiquement une sorte de multi-appartenance territoriale, qui est la réalité. Je ne dis rien du temps passé devant la télévision soir, où les bruits et les fureurs du monde vous arrivent en pleine figure, même au milieu de la campagne anglaise, sans que vous ayez toujours les moyens de gérer, de trier. C'est pour ça que la radio est aussi importante, parce que là, on a le temps de réfléchir. Mais c'est une vraie difficulté, cette situation que nous, on appelle multiscalaire. C'est-à-dire, on vit à plusieurs échelles en même temps. Et c'est pour ça que souvent, on est content de quitter la grande ville, et pour se reposer, pour se déconnecter. Mais c'est très difficile et c'est un défi, je dirais, culturel.
Michel Lussault.
Oui, Caroline Brouet. Oui, il y a eu déterritorialisation dans une certaine mesure. Nous sommes dans une phase du « re », après une phase du « dé ». Il y a eu, dans une certaine mesure, des opérateurs de cette déterritorialisation dans le cadre de la globalisation économique. Les grands acteurs de la logistique, les grands acteurs de la banque et de la finance, les grands opérateurs économiques qui ont dégroupé les productions et délié le lien entre un système de production et des territoires. Donc on peut dire que cette déterritorialisation, elle a existé et elle a été de plus en plus sensible. C'est peut-être même comme cela qu'un certain nombre de personnes ont appréhendé en première et en dernière instance la mondialisation, donc sous une forme assez terrible en vérité. Nous avons aujourd'hui un processus de réflexion nouvelle sur ce que le territoire apporte, avec deux choses que l'on peut dire. D'abord, je vous propose l'hypothèse suivante. S'il n'y a plus de limites extérieures, s'il n'y a plus d'extériorité à un ensemble géographique, alors les limites intérieures à cet ensemble géographique vont se multiplier. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport à l'Europe. Moins il y a d'extériorité pensable, reconnaissable, plus il y a de multiplication de limites intérieures, plus les frontières deviennent intérieures dans une certaine mesure. Et ça, l'anthropologie aussi nous le montre. Une société a besoin d'une culture et d'un discours sur la limite. D'une limite qui n'est pas forcément une fermeture à tout, mais d'une limite qui est tout simplement quelque chose à partir duquel on peut réfléchir à soi. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que Michel Fouché vient de dire très bien, c'est que nous ne sommes plus au 18e ou au 17e siècle, nous sommes dans un monde mobile, connecté. Ça veut dire que l'enjeu n'est pas de se replier sur son territoire à soi exclusif, dans une sorte de refus des autres. L'enjeu, c'est plutôt ce que certains appellent la multiterritorialité ou la multispatialité. Comment puis-je être à la fois londonien, en même temps éventuellement parisien ou bourguignon, en même temps très mondialisé à travers mes connexions et mes mobilités, en même temps très content d'aller dans le Yorkshire de temps en temps pour me délasser. Comment peut-on assumer cette multiterritorialité
si on n'est pas de l'élite?
Si l'on n'est pas de l'élite.
C'est ça le problème. Quand vous décrivez cela, par exemple...
Bon, oui, mais si vous êtes retraité, le monde vous arrive dans la figure,
le monde vous arrive
à
aussi.
La télévision.
Oui,
donc,
non, mais
de facto, s'il y a une crise économique aux États-Unis, ça pèse sur le taux d'intérêt de la maison
ça,
que vous venez d'acheter avec un emprunt à la banque. C'est ça ce qui est difficile à vivre.
J'ai l'impression que là, vous essayez de rendre assez positif malgré tout cette situation. Or, vous l'avez très bien décrit, me semble-t-il, la mondialisation entraîne la fragmentation, le no-limit entraîne les limites intérieures, et ces limites intérieures, elles se renforcent de plus en plus, effectivement, du fait que la mondialisation, ni l'Europe d'ailleurs, n'ont de limites. Et que donc le contrepoids qu'il faudrait vraiment apporter, c'est retrouver des limites extérieures, retrouver des grandes limites. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est pas de savoir s'il faut chacun dans son camp, dans son petit camp territorialisé, retrouver un lien avec le village voisin. C'est de retrouver des limites de citoyens collectifs.
En Michel tout cas, je suis un indécrottable optimiste, donc c'est ma nature. Mais je pense effectivement que la situation est complexe, elle est tendue, mais qu'en même temps, elle nous offre des ressources pour penser et pour nous projeter dans quelque chose d'autre. Et nous projeter dans un projet politique européen qui serait un projet, effectivement, de réflexion sur les limites européennes, internes et externes, et peut-être aussi sortir d'une vision de l'Europe où l'Europe ne serait qu'une sorte de méga-État. Je pense, en fait, que le projet européen peut se construire sur d'autres valeurs. Regardez ce qui fonctionne bien en Europe. Erasmus, la recherche, la culture, tous les projets de réseau, tous les projets participatifs, tout ce qui connecte des territoires entre eux. C'est l'interterritorialité qui fonctionne le mieux en Europe et pas la géopolitique à l'ancienne portée à l'échelle européenne. Si l'Europe est capable de mettre en réseau, de mettre en lien, de mettre en connexion les individus dans leurs différents lieux de vie et d'activité, alors l'Europe a un avenir. Si elle n'est pas capable de le faire, si elle est dépendante des États ou si elle veut elle-même devenir une sorte de super-État omnipotent, alors nous avons quelques soucis, je crois, devant nous.
Michel Fouché, sur cette alternative ?
Oui, je suis d'accord. Sur les limites extérieures, je dirais, Poutine nous oblige maintenant à y penser. Donc, les critères, ils sont à l'est stratégiques. C'est eux et nous. Même si la frontière est ouverte, il y a des échanges, ce qui est le cas. Au sud-est, c'est la question stratégique également, du Proche et du Moyen-Orient, et la question de la co-gestion des flux migratoires et du co-développement. Dans cette configuration-là, il faut trouver un statut spécial sur mesure pour la Turquie, mais arrêter cette hypocrisie de on arrête les négociations, on les reprend, etc., etc. Il faut le faire, il faut prendre des risques. Il ne s'agit pas de se fermer. Il y a une différence entre la fermeture et la limite. La limite, je suis tout à fait d'accord, il y a des textes de Kant là-dessus, de Hegel. La limite, c'est le point qui me permet de savoir qui je suis et à partir duquel je peux négocier avec l'autre. La limite, c'est pas la borne. La limite, c'est le point. La limite m'oblige. Si je pose une limite, je sais que l'autre existe, que l'extérieur existe. Sinon, l'option, c'est la borne. Et actuellement, tout le discours populiste des dirigeants porte non pas sur les limites de l'Europe par rapport aux migrations, mais sur le bornage, c'est-à-dire la fermeture absolue, c'est-à-dire la négation de l'autre. C'est le mur.
Michel Lussault disait à l'instant qu'il était un indécrottable optimiste. Vous définiriez de la même façon, Michel Fouché ?
Non, moi j'essaye d'être un réaliste dans la ligne de la réelle politique.
D'où le choix de la musique pour terminer, Michel Fouché. Musique funèbre pour la reine Marie, Henry Purcell. Et on l'avait là sous la direction de John Eliot Gardiner et la voix de Felicity Lott.
Oui,
Michel Fouché, sur ce choix.
Nous sommes le 5 mars 1695 à l'abbaye de Westminster pour l'enterrement de la jeune reine Marie II, très populaire. Elle a régné sur l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, ou co-régné avec son époux imposé, Guillaume III d'Orange, des Provinces Unies, puisque son père avait refusé un mariage avec le dauphin Louis, le Parlement britannique ne souhaitant pas un rapprochement avec la France catholique. Jacques II sera le dernier roi catholique du Royaume-Uni.
Merci Michel Fouché et merci à vous Michel Lussault.
Merci.
Merci également à toute l'équipe de la Grande Table, Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. À la réalisation, c'était Marie-Laure Ciboulet. À la technique aujourd'hui, Lucas Vaillant.